qui me répondent, Gilles, Alain. Je vais commencer. Moi, je suis à Paris, donc j'ai peut-être plus l'occasion d'entendre des musiciens divers, parce que c'est vraiment, il y a une sacrée concentration de musique, hein, que ce soit de jazz ou d'autres choses. Donc, depuis quelque temps, je retourne beaucoup en écouter. En passant, je dirais qu'un des problèmes des musiciens français, c'est le manque de confrontation. Aux États-Unis, il y a des bœufs. Et en France, ça n'existe pas. Bon, un groupe joue, puis un autre dans un festival, ou même dans un concert, il y a deux ou trois groupes qui jouent, mais ils jouent les uns après les autres, mais ils ne se mélangent pas, même s'ils se connaissent, même si des fois il y a des musiciens d'un groupe qui jouent dans l'autre groupe. Il n'y a jamais de confrontation. Et la confrontation, elle est intéressante parce qu'elle permet de communiquer avec les autres musiciens.
Est-ce qu'il y a une raison?
Une raison, ben, moi je dirais que la première, c'est peut-être les thèmes. Sur quoi on va improviser? Parce qu'il y en a qui savent jouer du bebop, mais qui ne peuvent pas lâcher le défilement des grilles, puisqu'on improvise sur des grilles. Et il y a des musiciens qui jouent que du free, qui ne sont pas forcément capables d'improviser sur des harmonies ou des structures qui découlent dans le temps aussi. Et puis, c'est un problème de tchatch, quoi, je dirais. De tchatch, à Paris, c'est fou, on ne se réunit pas facilement. Déjà, pour trouver des lieux de répétition, c'est difficile. Ensuite, les cafés ne sont pas forcément agréables pour discuter, pour se réunir, comme j'ai l'impression, c'est vrai, là, tu peux peut-être me répondre, Gilles, si dans le coin, dans la région d'ici, de Sète, Nîmes, Montpellier, il y a des endroits où les musiciens ils se retrouvent et ils discutent ou pas. Ouais. Est-ce que ça communique? Mais je parlais des problèmes... Des problèmes instrumentaux, des problèmes techniques, des problèmes sociaux, des problèmes de tout, quoi, de politique, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a ça?
Bah, il y a peut-être ça, mais enfin, je ne connais pas.
Oui, toi tu sais pas.
Moi, ça se passe chez moi.
Ah, chez toi?
Chez moi, c'est un endroit qui est très bien pour ça, mais il faut que les musiciens viennent aussi.
Et qu'est-ce que tu fais pour les faire venir?
Je les invite à venir.
Je les invite à venir. Oui. Mais est-ce qu'il y a des retours?
Alors là, je tourne avec un trio comme ça, mais... Enfin, je joue. Il faut dire aussi que moi, les musiciens avec qui j'aime jouer, même si je joue pas souvent avec eux, ce sont des musiciens qui sont à Paris. Voilà. Alors, ils sont loin. Alors, ça pose un problème.
Oui.
Donc, il faut, c'est pas moi qui ai envie tellement de monter sur Paris, mais eux, ils ont envie de descendre. Bon. Alors, il faut que je trouve le moyen de les faire descendre et qu'on fasse des trucs.
Mais qu'est-ce que tu penses?
Il faut trouver des plans. Mais dans les cafés, on rencontre pas des choses intéressantes. Moi, j'ai toujours dit, quand on rentre dans un café, on trouve des gens qui sont, c'est des gens qui sont dans les bars sans arrêt. Je veux dire, ils passent leur temps, leur vie dans les bars et les gens à bar, c'est des gens à beau bar. Enfin, souvent, c'est ça le truc. C'est-à-dire, ça va jamais très loin. Enfin, je parle ici, hein.
Oui.
Alors, je fréquente pas les bars. Hein.
Et comment tu fais pratiquement pour travailler la musique, si tu répètes, si tu fais des répétitions?
Mais je répète pas, on répète jamais.
Ah, vous ne répétez pas?
Non, non, on arrive le jour J, on doit jouer à 9h, l'autre il arrive à 9h-5 de Paris, il monte sur la scène et on attaque le concert.
D'accord.
Carrément. Oui.
Mais est-ce que vous faites plusieurs passages aussi? Ou est-ce que vous faites des événements comme ça?
Peut avoir plusieurs passages, alors ce sera en fonction des gens qu'on aura trouvés qui auront bien permis ça.
Et est-ce que la musique, quand tu n'as jamais joué avec un nouveau musicien, si ça arrive, comment ça se passe la deuxième fois que... Parce que moi, c'est les problèmes auxquels j'ai été confronté. Quand je joue pour la première fois avec un musicien, très souvent, c'est super. Puis la deuxième fois, ça ne marche pas aussi bien.
Mais je crois que c'est une question humaine. Le jazz, c'est une musique de langage. Si on connaît bien un langage, donc on trouve les musiciens qui parlent le même langage.
Je parlerais dead jazz, moi.
Dead jazz. On recherche quand même des gens avec qui on peut s'entendre, hein, au départ. Bon.
Et comment tu fais quand tu connais pas le musicien?
C'est important, c'est humain d'abord. Si on s'entend humainement avec quelqu'un, musicalement, ça va suivre.
Et tous les musiciens avec qui tu as joué, tu as eu des rapports verbaux, disons, avec eux avant, ou tu les as entendus sur disque?
Non, moi j'ai. Le premier truc que j'ai fait, c'est un festival. C'est avec Siegfried Kessler, là. D'ailleurs, qu'on vient d'entendre. Et on s'est retrouvés sur la scène juste au moment du concert. Le contrebassiste, il a été trouvé la veille, parce qu'il était prévu un contrebassiste, il s'est désisté au dernier moment.
Oui.
y a un ami que je rencontre là qui me dit, j'en connais un à Paris, j'ai son numéro. Et le soir, donc la veille du concert, je téléphone, il me dit, ouais, écoute, avec Siegfried Kessler, ouais, ok, d'accord, j'arrive. Tu viens me chercher à la gare, parce que j'ai pas de bagnole, on est allé me chercher à la gare. Il est arrivé une heure avant le concert. Là-dessus, la veille aussi, pas de batteur, on a trouvé à Reims un batteur, comme ça.
Que vous connaissiez pas.
Qu'on ne connaissait pas. Et puis Siegfried s'est pointé, puis moi, alors, on s'est retrouvé à quatre, on n'avait jamais joué ensemble et on ne se connaissait pas du tout. Enfin, moi je connaissais Siegfried pour avoir discuté avec lui depuis déjà longtemps, mais lui-même ne savait pas que je faisais du sax.
D'accord.
Je n'avais jamais dit que je faisais du sax.
Et les deux autres musiciens étaient totalement inconnus.
Inconnus, voilà. Disons qu'on se retrouvait quatre musiciens, musicalement quatre musiciens qui ne s'étaient jamais exprimés ensemble.
Oui.
Et on a commencé, et puis ça a duré jusqu'à 4h30 du matin. On a développé un certain nombre de thèmes. On a même créé des thèmes, spontanément, comme ça.
Oui, d'accord. Oui.
Qui étaient hyper carrés, on peut dire, carrés. Ça s'est bien passé.
Et dans quel contexte ça s'est produit, disons, ce concert-là, proprement dit ?
C'était un festival qui se passait à Chalon-sur-Marne.
Oui.
Qui était organisé par une maison de jeunes qui avait beaucoup de moyens pour le faire. Il y avait 8 jours, de 8 soirs de jazz.
De jazz, de toutes sortes.
Oui, pratiquement. Il y avait des gens du coin, enfin des régionaux. Il leur fallait des têtes d'affiche. Alors on avait été mis comme tête d'affiche.
D'accord.
Avec Georges Arvanitas.
Ah, mais c'était toute forme de jazz. Il y avait du traditionnel aussi.
Oui, il y avait du traditionnel. Ah, il y avait du jazz brésilien aussi. Enfin, ça s'est passé comme ça pour nous, disons, musicalement, on s'est rencontrés, et on a continué après, mais on continue maintenant depuis 2 ans. On n'en a pas beaucoup, des concerts, parce que le plus dur, c'est de trouver des producteurs.
Mais vous ne fonctionnez donc, en fin de compte, que sur des événements. Jamais, disons, il n'y a jamais un travail à la maison.
Un travail à la maison, c'est un problème, parce que c'est un problème, parce que Siegfried Kessler, lui, il est soliste, donc il est sollicité à droite à gauche, il fait son métier.
Il est accompagnateur aussi, des fois.
Oui, mais bien sûr. Il y a Claude Mouton qui, lui, de son côté, maintenant, commence à tourner un peu aussi. Il fait partie du Big Band de Paris. Pierre Blanchard, il joue avec Pierre Blanchard, il joue avec un certain nombre de gens. Donc, il est à Paris aussi. Le batteur qui est à Paris maintenant aussi, qui était dans la région avant, mais maintenant qui se trouve à Paris, qui a fait le conservatoire, travaille avec le premier percussionniste de France, je ne sais pas comment il s'appelle.
Silvio Gualda ou l'autre,
celui
qui a l'école à Pantin, là.
Qui est un jeune batteur assez prometteur,
oui.
Qui travaille de manière acharnée.
Oui.
Voilà, ça forme le quartet. On ne répète pas, mais on a un langage commun. Alors, c'est même pas mal, parce que il n'y a pas la routine.
Oui, d'accord.
Alors, quand on a une certaine fougue d'expression sur le moment, et ça peut éclater à ce moment-là.
Et est-ce que ça t'intéresserait de faire une production, de faire un disque avec ce groupe ?
Ah oui, bien sûr.
Et alors comment toi tu peux t'y prendre pour y arriver ?
Alors soit c'est un disque produit par rapport à des concerts, une tournée avec les bons moments. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui est le plus apprécié. Déjà, je crois que c'est les moments en direct avec un contact avec un public plutôt que du travail de studio.
Et à qui ça peut s'adresser, ça ? À qui tu peux aller demander ça, en France ?
Pour faire une production ?
Oui, pour produire le disque. Ou est-ce que tu peux...
Des gens comme Marche Production, des gens comme ça ou autres.
Tu parles de Gérard Théronès.
Oui, lui, il est à la portée de faire un truc comme ça. Si on peut faire une coproduction, parce que ses finances sont assez dures.
Avant que ce disque soit éventuellement produit, on pourrait peut-être écouter la cassette... original.
Ah, et le premier concert, ouais. C'est le premier, c'est ce dont on parlait là.
Ah, super.
avec Siegfried. Voilà, c'est un peu. C'est assez drôle parce qu'en même temps, pour moi, c'était un risque de savoir faire le point où j'en étais, parce que ça me faisait 2 ans de sax, et au bout de 2 ans de sax, on ne sait pas où on en est. Et je voulais savoir. Et on a fait ce concert.
On pourrait aussi préciser que Siegfried joue de la flûte dans le début.
Ah oui, alors au début du morceau, on fait une introduction sur un. On a fait un concert sans dire les thèmes, sans dire les tempos. Ça a été un piège un peu pour moi. parce que j'ai, par rapport à les professionnels, souvent sont très durs. Le truc, c'était de s'exprimer par rapport à des introductions. Bon, alors, rien que là, on doit reconnaître le thème.
On va écouter.
On est bien resté quand même sur ta petite explication sur le jazz et sur Coltrane avant, pendant et après.
Oui.
Il y a une ambiance très coltranienne dans ce morceau.
Ben, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire du saxo, il fallait que je trouve un moyen technique d'aborder le saxo, et puis avec le batteur avec qui je jouais à l'époque, enfin que je jouais pas parce que je commençais du saxo, enfin je fréquentais, on a vite joué ensemble, au bout de 6 mois on a commencé à jouer. Et lui il était vraiment parti sur Coltrane à fond, car il faisait écouter du de Coltrane, il faut que t'écoutes ça, mais je connaissais déjà Coltrane, mais je savais pas, c'était vraiment un monde... pour le sax, ça reste d'ailleurs un monde inabordable. Et puis ce que je découvre en Coltrane, c'est le dialogue, c'est pas sa musique qui est importante, c'est ce qui passe au travers de sa musique. Et bon, je suis peut-être par rapport à des trucs vécus, une sensibilité, je m'identifie bien à avoir des choses à dire avec force. Et, comme pour moi, la musique, ce n'est pas une question d'esthétique, mais une question de langage et d'avoir des choses à dire d'une certaine manière, comme Bartók l'a fait d'ailleurs. C'est-à-dire, à une époque, Bartók a fait de la musique très agressive, parce qu'il avait des choses à dire et il les a dit avec force. J'ai envie de dire des choses et je suis donc plus identifié sur la musique de, par rapport à la musique de Coltrane.
Il y a le dit du musicien.
Sans vouloir limiter, hein, je veux dire.
Ça, c'est important, les rapports entre les musiciens, bon, tout ce qui peut se passer. Et puis, il y a celui qui écoute. Oui. Celui qui écoute, qui peut, alors, c'est encore une habile transition, ça, pour amener vers certaines formes d'écoute qui peuvent se passer, pas uniquement en concert, mais l'introduction de la musique, dans des milieux thérapeutiques, par exemple. Mmh. Et alors là, ça glisse vers Alain.
Par exemple, les auditeurs qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que vous êtes en train de faire votre vaisselle ? Est-ce que vous êtes allongé sur un sofa ? Voilà, ça c'est ça que j'appelle l'écoute musicale. Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous êtes entièrement concentré sur l'écoute de Radio Philassois, par exemple. Bon, dans un concert, c'est la même chose. Un début de concert, c'est une chose. Le milieu du concert, c'est une chose. Il y a une pause, puis après on reprend, etc. On n'est pas dans le même état d'écoute au début et à la fin. Quand on arrive, en général, on amène ses problèmes de l'extérieur, puis il faut... Sauf ceux qui ont vraiment décidé de le faire, il faut un certain temps d'adaptation pour vraiment rentrer dans la musique. Sauf, ça dépend des types de musique aussi qu'on va écouter. Bon, si je prends l'exemple de la musique rock, le niveau sonore est très fort. Bon, alors là, c'est très difficile de parler à son voisin ou à sa voisine. En jazz et en musique classique... la musique est souvent basée sur des nuances. On joue fort, on joue moins fort, on joue pas fort. Donc, voilà. C'est, bon, thérapeutique maintenant. Alors, thérapeutique, qu'est-ce qu'on écoute quand on va bien? Qu'est-ce qu'on écoute quand on va pas bien? Quel type de musique? Quels sont les instruments qu'on préfère? Est-ce qu'on aime la voix? Est-ce qu'on aime les cordes? On aime le violon? On aime le jazz? On aime la musique orientale, la musique classique, etc. Moi, je peux pas répondre à ces questions-là. Je peux simplement parler un petit peu éventuellement d'un, en tant que psychomotricien, je fais un travail d'écoute avec des étudiants dans une école à Paris. Et je les mets en situation d'écoute. C'est-à-dire que des fois, je les fais allonger, je leur fais faire une forme de relaxation allongée, par exemple. Bon, d'autres fois, je les fais bouger dans la pièce en écoutant un petit outil. Des fois, je leur fais plier le bras en 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, de plier un bras, que ça mette 10 minutes. Alors, il faut donc être occupé. Alors, j'appelle ça diviser la tension. Être occupé à plier son bras, de l'amener du bras tendu, de l'amener à l'épaule opposée en 10 minutes et d'écouter une musique en même temps. Alors, il se produit tout un tas de phénomènes dont on parle après. Voilà. Alors, division de la tension et concentration, etc., toutes ces choses-là.
C'est une technique qui devient plaquée sur la musique, là.
C'est une technique, mais c'est pas une technique. Disons, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. C'est comme le jazz. Le jazz, on peut jouer 100 fois, même en classique, 100 fois le même morceau, mais jamais le jouer de la même manière, de la même façon. On joue dans l'état où on est à ce moment-là. Mais je dirais que c'est se mettre dans certains états pour faire la musique, pour le musicien. Et puis, de la même façon, si on est honnête, les auditeurs, ils devraient faire un travail similaire, de se mettre en écoute. S'ils sont venus pour écouter une musique, il faut qu'ils rentrent aussi dans le jeu. Et c'est pas toujours évident. Et en particulier pour la musique improvisée, où il y a des choses qui sont pas faciles d'accès. Comme ça, d'entrée, il faut un apprentissage, peut-être, d'écoute.
Ça peut revenir un peu aussi, alors sur petite discussion de départ, sur la radio, sur les concerts. C'est vrai que la radio, c'est aussi une certaine facilité. Je veux dire, on arrive, bon, effectivement, on appuie sur son bouton. C'est toujours calé plus ou moins au même endroit, d'ailleurs, pour chaque personne. Hein. Chaque personne a son transistor. Elle ne se doute pas toujours que qu'on peut bouger le... On peut chercher sur le cadran d'autres styles de musique, alors on reste là comme ça dans un truc, c'est un peu une consommation un peu passive. Le concert, c'est déjà différent. On vient, on se motive, on se déplace. Nous, quelquefois, bon, à Radio Philosophie, c'est vrai qu'on a demandé dans cette émission de Jazz en Bum et Jazz en Bien, quelquefois, dire aux gens, bon, mais maintenant, quoi que vous fassiez, arrêtez, puis écoutez. Ou alors, faites complètement autre chose, mais coupez le poste, ça vaut pas le coup d'avoir les deux choses en même temps. On se demande toujours un peu, est-ce que, bon, pourquoi, enfin, on sait pourquoi on le fait d'ailleurs, parce qu'on pense qu'effectivement, certaines musiques ont besoin d'être vraiment écoutées avec beaucoup d'attention, particulièrement certains morceaux de jazz d'ailleurs.
Oui, certains morceaux de jazz demandent une plus grande, écoute, une plus grande concentration.
Oui,
mais bon. Mais la radio, pour parler de la radio, la vôtre en particulier, mais même toutes les radios, ça doit être un instrument d'éveil. Un instrument d'éveil, et donc ça dépend aussi des gens qui font les émissions et de la façon dont ils se situent là-dessus. Si c'est pour faire du pouce-disque, bon, peut-être que c'est nécessaire à certains moments, mais en général, ça doit être un instrument de dialogue et de remise en question permanente et branché sur le réel, sur la réalité, sur les choses qui se passent autour, dans la région, et puis un petit peu ce qui se passe, disons, ici, un peu dans la capitale. Hein, moi, je suis d'accord là-dessus. Hein, bon, un peu d'information générale dans la capitale, mais ce qui est important pour une radio comme ici, c'est de travailler sur le terrain, évidemment, travailler sur le terrain. Et puis, alors ça, les animateurs, c'est comme les musiciens, il y en a des bons, il y en a moins bons, il y en a des mauvais. Hein.
Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que la musique, c'est un univers, déjà. Bon, c'est un univers qui peut échapper à certains, mais ceux qui ont une certaine attention et qui veulent rentrer dans cet univers... Et les premiers sont les musiciens. Les musiciens apprennent la musique. Mais la musique, ça s'apprend. Ça s'apprend aussi bien de la part d'un musicien que de la part d'un mélomane. Il faut vouloir aller à la découverte. C'est une aventure en même temps. C'est-à-dire, si je veux découvrir des pays, je resterai pas ici. Je serai toujours en quête de trouver un nouveau pays avec une nouvelle ethnie, etc. Parce que c'est enrichissant. Bon, là, je serai un aventurier, je serai un voyageur, etc. Et la musique permet de rester chez soi et de voyager aussi. C'est-à-dire, il faut avoir envie de voyager et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe actuellement, c'est que, justement, ce petit bouton qu'on trouve, sur lequel on appuie, on reste sur une station, eh ben, on a tellement l'habitude de ne pas voyager et de rester enfermé chez soi D'ailleurs, quand on voyage, eh bien, on a un mois de vacances par an, c'est pour aller sur une plage, on va pas loin, disons.
On ira de moins en moins loin.
Et en fait, la musique, c'est un moyen de voyager, un moyen pour voyager. Et même quand on dit, oui, c'est peut-être pas évident d'écouter ça. C'est toujours évident quand on a envie d'aller voir autre chose, voir ailleurs ce qui se passe. Si je veux voyager, j'ai deux solutions. Je voyage avec une agence de voyage qui me fera voir qu'est-ce qu'elle voudra, par exemple, Bombay. Bon, ben, je vais aller à Bombay, et puis je verrai l'axe central de Bombay, le plus grand hôtel du monde. Et puis on me dira, non, il ne faut pas aller par là. Bon, et si j'y vais tout seul, j'aurais plutôt envie d'aller là où il ne faut pas aller faire voir aux touristes ce qui se passe. Et c'est là où je vais découvrir un tas de choses. Et la musique, c'est pareil. Il ne faut pas se laisser surprendre. Il n'y a aucune agression en musique. Je veux dire, parce que souvent, les gens disent, oui, c'est plus ou moins agressif. Il n'y a pas d'agression en musique. Coltrane n'était pas... Je parle de Coltrane parce que c'est celui qui paraîtrait, d'après le langage universel, enfin populaire, être le plus agressif, on dit ce mot. Mais ce n'est pas agressif. C'est dire quelque chose avec force. C'est pas forcément agressif. Si on écoute les prêcheurs noirs américains de l'église baptiste, si on écoute les discours de Martin Luther King, on peut dire aussi c'est agressif. Et pourtant, ce n'est pas agressif. C'est une autre façon de... Si on écoute tout simplement des Africains dans leur village faire un discours, on peut penser que c'est agressif. Parce que c'est une autre façon d'exprimer les choses, d'avoir une autre sensibilité. C'est à ce moment-là une question de civilisation. On est à un temps où toutes les civilisations commence à s'interpénétrer et on n'est pas encore habitué à ça.
La peur est plus droit à la différence.
Voilà. Alors qu'en fait, bon, ben, le problème est tout simple. Aller voir un peu ailleurs ce qui se passe.
Et on s'aperçoit que c'est pareil. Hein.
Tout simplement, et qu'on s'exprime différemment, mais qu'à la limite, ça revient au même.
Si on allait voir ailleurs ce qui se passe, côté du vibraphone.
Ah, tiens.